Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui a failli déraper, mais qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur tous les écrans que vous voulez. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons picorer, même si le mot est très très mal choisi, dans un thème, et en l'espèce, la vie des insectes. Et oui, ils sont nombreux, les films. Alors, vous allez voir les vrais films et puis les films d'animation à avoir mis des insectes en vedette. Alors, plus ou moins pour la bonne cause. D'ailleurs, souvent, quand il s'agit de films de fiction, c'est pas vraiment pour la bonne cause. Et ça, c'est pas joli, joli. Mais ma foi, c'est comme ça. Les hommes ont peur de ce qui ne leur ressemble pas. Et effectivement, le monde des insectes, si fascinant soit-il, a que peu à voir avec le nôtre. Et par conséquent, eh ben, il y fait peur. Alors, je voudrais aussi, dès l'abord, mais je m'étonne même d'avoir à le souligner, décourager ceux qui s'attendent à voir des films avec des araignées pour leur rappeler que les araignées ne sont pas des insectes. Les insectes ont 6 pattes et les araignées, comme les scorpions et d'autres espèces d'arachnidés, en ont 8. Oui, je vous entends, un jour on fera une spéciale araignée, mais dans ce cas-là, il n'y aura que des films d'horreur et c'est bien dommage, il s'agit d'animaux si merveilleux. Donc, on va rester aux insectes et on va commencer avec un film alors, qui est plus ou moins un film d'animation, mais avec un effet très très ingénieux. Ça s'appelle Minuscule. Et en fait, c'est le premier long métrage issu d'une série télévisée d'animation qui s'appelait Minuscule, la vie privée des insectes, créée par Hélène Giraud et Thomas Zabot en 2006 et qui donc ont transformé cet essai en un premier long métrage qui a connu tellement de succès qu'on a eu depuis Minuscule 2 et qu'on annonce même le 3. En l'espèce, eh bien, le film mêle de manière très habile de vrais décors, entre guillemets, c'est-à-dire de vraies scènes de nature qui ont été filmées dans le magnifique parc national des Écrins et celui du Mercantour, dans les Alpes françaises, ai-je besoin de le préciser. Et sur ces décors, entre guillemets, eh bien, on ajoute des insectes qui, eux-mêmes, sont faits sous forme animée, numérique, bien sûr. L'effet, ma foi, très très réussi, même si ça paraît un peu étrange au départ. Et l'autre grande réussite du film, c'est que contrairement à d'autres opus, et on en évoquera un peu plus tard dans l'émission, eh bien, les insectes ne sont pas du tout anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé d'en faire des personnages humains. Et d'ailleurs, comme les insectes, ai-je besoin de vous l'apprendre, ils ne parlent pas, en tout cas au sens où on entend le langage animé. C'est-à-dire que tout le film est raconté juste avec des bourdonnements, des grésillements, des choses comme ça. Et c'est très très drôle et très très réussi et très très poétique. Donc on va écouter, j'espère l'avoir bien vendu, un extrait de la bande originale du film, le premier, Minuscule, La vallée des fourmis perdues. La musique, elle est signée d'Hervé Lavandier et nous sommes dans 24 notes secondes.
Thank you.
Oh ben c'est très joli ça, un extrait de la partition de Minuscule, La vallée des fourmis perdues, dit-il comme s'il ne l'avait jamais entendu. Une musique d'Hervé Lavandier, un film d'Hélène Giraud et Thomas Zabot, vraiment une très très belle approche du monde des insectes. Alors évidemment ce ne sont pas de vrais insectes et ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction avec une histoire assez marrante. Mais ma foi le tout est très très réussi et comme je l'ai dit en plus c'est relativement fidèle à la... je dirais, au comportement des insectes. Par contre, les relations entre les différentes espèces, coccinelles, fourmis, etc. Ma foi, je n'en sais pas grand-chose. Ah si, quand même, il y a des fourmis noires et des fourmis rouges, et je peux vous dire qu'elles ne s'aiment pas beaucoup. Et ça, c'est vrai dans la réalité aussi, quand vous regardez. Voilà, alors on va passer à tout autre chose. D'ailleurs, on va revenir en arrière dans le temps, mais ça, c'est le charme des émissions thématiques. En écoutant un extrait de la bande originale d'un film de David Cronenberg, tourné en 1986, qui s'appelle toujours The Fly. Et The Fly, en anglais, c'est la mouche. Même si fly, ça veut dire voler, c'est assez fascinant que le même mot désigne les deux choses en anglais. La mouche, eh bien, c'est adapté d'une nouvelle, que j'avoue ne pas l'avoir lue, mais surtout d'un premier film tourné en 1958 par Kurt Newman, pardon, avec Vincent Price dans le rôle principal. Alors, c'était les années 60, c'est-à-dire le grand temps de la série B, avec des trucages un peu limités, et c'était le cas des effets spéciaux, évidemment. Il s'agissait de transformer un homme en mouche, et dans le film de Kurt Newman, c'était sa tête et puis un point, c'est tout. Tandis que dans le film de David Cronenberg, et sans vous divulgâcher plus avant le scénario, eh bien Jeff Jurassic Park Goldblum, qui était un savant, se trouvait petit à petit amalgamé avec une mouche et en résultait donc une créature relativement monstrueuse, il faut bien le reconnaître, qui était un mélange d'hommes et de mouches, donc dans l'esprit assez torturé de David Cronenberg, un mélange, je dirais, de pulsions humaines et de pulsions d'insectes avec une dimension sexuelle très très appuyée, si je puis dire, qui illustrait d'ailleurs la présence aux côtés de Jeff Goldblum de la pulpeuse Gina Davis, et puis aussi, ça ne saurait être un hasard, le fait que David Cronenberg s'était octroyé dans le film le rôle du gynécologue de Gina Davis. Bref, tout cela était quand même relativement malsain, il faut bien le reconnaître, mais pour 1986, pour l'époque, eh bien les effets spéciaux étaient tout à fait réussi et le film s'élevait très largement au-delà de la série B et du petit film d'horreur qui fait peur. C'était vraiment, et c'est toujours, une sorte de méditation sur les notions de contamination, d'infection, de mutation qui sont au cœur du cinéma de David Cronenberg. La bande originale du film, elle était signée d'Howard Shore, qui signa plusieurs bandes pour David Cronenberg avant de devenir ultra célébrissime avec les bandes originales du Seigneur des Anneaux. On en écoute un extrait, The Fly, dans 24 notes secondes. La majestueuse coda de cet extrait de la bande originale de La Mouche, un film de David Cronenberg tourné en 1986, une musique d'Howard Shore. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les effets spéciaux très réussis, ils étaient signés de Chris Wallace et d'autres bien sûr. Eh bien Chris Wallace, faire de ma part, fut réalisateur de La Mouche 2, puisque évidemment le film connut un très grand succès et du coup généra une suite. Mais c'est là où on voit la différence entre un réalisateur et autre chose. On était dans La Mouche 2 où il n'y avait plus ni Jeff Goldblum ni Gina Davis. On était aux limites du grotesque, il faut bien le dire. Et comme le disait l'autre, quand les limites sont dépassées, eh bien, il n'y en a plus. On va rester dans le genre un peu horrifique, je le crains, pour ces pauvres insectes et pour les amateurs d'insectes, dont vous l'avez compris, je fais partie, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de Guillermo del Toro, alors depuis réalisateur consacré, mais qui en 1997, même s'il avait déjà réalisé quelques films tout à fait remarqué, eh bien, ne fit pas le poids face au producteur de son film Bob et Harvey Weinstein. Alors Harvey Weinstein, depuis, s'est illustré dans d'autres péripéties. Le film, il s'appelle Mimic et c'est l'histoire d'une épidémie de cafards dans la ville de New York qui est combattue avec une sorte de produit chimique qui finit par transformer évidemment les cafards en êtres monstrueux, si l'on veut, puisque comme le titre du film le suggère, en fait, ils se transforment en nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre l'allure d'hommes et donc à passer presque inaperçus dans les rues de New York, du moins sur les quais du métro de New York, où c'est bien connu, personne ne fait attention à personne. Et surtout, si vous avez un cafard géant à côté de vous, ben vous ne lui adressez pas la parole, même s'il n'a pas de portable, je dirais, à la patte. La six pattes. Bref, le film, comme le disait Guillermo del Toro, était très très série B. Lui aurait bien imaginé de faire quelque chose de très différent. Et d'ailleurs, il le fera par la suite avec d'autres scénarios qui frisaient la série B, mais qu'il transforma en œuvre véritablement magique et enchanteresse. À cause des producteurs qui tinrent fermement le tournage, il n'en fut rien. Et donc, Mimic est un film pas si mauvais, notamment au niveau des effets spéciaux, si on veut bien admettre le concept de cafard géant qui, pour le coup, comme La Mouche de Kurt Neumann tout à l'heure, fait très très série B. En tête de la distribution, il y a Mira Sorvino, il me semble l'avoir vu dans un film de Woody Allen, mais je ne sais plus lequel. Et à la musique, il y a Marco Beltrami, Mimic, 24 notes secondes. bien, encore une coda qui déchire pour un extrait de la très belle, à mon goût, musique de Marco Beltrami pour le Mimique de Guillermo del Toro, un film de 1997, alors qu'il dut connaître un certain succès, puisqu'à ma connaissance, on eut droit aux deux, aux trois, peut-être plus encore, quand les producteurs américains, notamment les redoutables frères Weinstein, ont un succès, bien ma foi. Ils l'épuisent jusqu'à Lali, ou Lalali, c'est comme vous voulez. On est donc toujours avec nos chers amis Insectes, donc je n'ai pas besoin de rappeler qu'ils nous dépassent, mais alors très 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 largement en termes de nombre, mais ça c'est un peu facile. Et on va changer complètement de genre pour revenir au côté anthropomorphique que je brocardais un peu légèrement tout à l'heure, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de John Lasseter, l'homme connu pour Toy Story. John Lasseter et Andrew Stanton, un film sorti en 1998 et qui était à l'époque le deuxième long métrage d'animation des studios Pixar avant qu'il ne soit mangé par un autre ogre que les frères Weinstein, l'ogre Disney, hein, comme vous le savez sans doute. Le film, il s'appelle « Mille et une pattes ». Alors, ma foi, je vous laisse l'ironie du titre français en anglais, ça s'appelle A Bug's Life. Alors, sauf erreur de ma part, bug en anglais, c'est pas comme fly, c'est juste un insecte quelconque. Et le film racontait, alors avec une veine anthropomorphique relativement marquée pour le coup, eh bien, la lutte entre les gentilles fourmis et les méchantes sauterelles qui veulent les racketter. Évidemment, à la fin, c'était les fourmis qui gagnaient, ce qui n'est pas le cas quand il y a Occupy Wall Street d'un côté et les milliardaires de la Silicon Valley de l'autre. Enfin, tout ça est une autre histoire. Ma foi, bon, c'était un peu convenu, mais il y avait quand même toujours cette patte Pixar très originale dans la recherche plastique et esthétique, et notamment dans le rendu des insectes, car comme je l'ai dit au début de cette émission, hélas, pour beaucoup de gens, les insectes créent d'emblée une certaine répugnance, et il fallait évidemment les rendre sympathiques pour les enfants et pour les autres, et ce coup-ci, le film réussissait. Il l'aura fait à beaucoup de reprises, mais en l'espèce, c'était Randy Newman qui signait la bande originale de ce film, et sauf erreur de ma part, mais j'avoue que je m'en souviens plus trop bien, vous m'excuserez sinon, on va écouter la chanson du film, ça s'appelle The Time of Your Life, dans 24 notes, secondes. Was a bug, little bug, hardly there. How he felt, what he dreamed, who would care. Without any evidence, his bones were ready. Full of confidence. Some people have it in you. Didn't have much common sense. It's highly overrated. He just knew that he'd come through. It's the time of your life, so live it well. It's the time of your life, so live it.
Cook it, go. Believe it, it's the time. live it well.
Oui, et aurait ajouté Louis Armstrong. Si vous n'aviez pas compris, c'est The Time of Your Life, un extrait dans la bande originale de Mille et Une Pattes, alias Bug's Life, un film de John Lasseter et Andrew Stanton, tourné en 1998. Et nos amis québécois, je les adore, nos amis québécois, ils ont appelé ça Une vie de bestiole. Mais pourquoi Mille et Une Pattes, ça n'allait pas? C'était français pourtant. Mais eux, ils sont à fond sur le truc. Et ils ont bien raison. On va se quitter, on a évoqué brièvement donc le monde des insectes, dont je rappelle l'importance. Apparemment, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté des insectes. Et s'il n'y a plus d'insectes, eh bien, il y aura plus rapidement aussi beaucoup moins d'humains. C'est le cas de le dire. Donc, sauvons les insectes. Alors, on ne va pas les sauver avec le film suivant, parce que lui, il était relativement insauvable, le dernier film de notre émission. Ça s'appelle « L'inévitable catastrophe ». En anglais, ça s'appelait « The Swarm ».« Swarm », en anglais, c'est un essaim. Et effectivement, le film racontait l'invasion par de l'Amérique du Nord, bien sûr, par des essaims d'abeilles génétiquement modifiées qui venaient d'Amérique du Sud, évidemment. On est toujours dans les grandes paranoïas américaines. C'était en 1978, la grande époque du film catastrophe. On avait eu « L'aventure du Poséidon », on avait eu « La tour infernale », on avait eu « Tremblement de terre » qui avait été très très gros succès au box-office. Ma foi, il n'en fut rien avec l'inévitable catastrophe. Il faut dire que le scénario était aussi risible que les effets spéciaux. Pourtant, la distribution était prestigieuse. Michael Caine, Catherine Ross, Richard Widmark, Richard Chamberlain, Olivia de Havilland, etc., etc. Mais ma foi, quand le film est nul et que les effets spéciaux le sont aussi, ben, ma foi, ça ne marche pas. Et c'est tant mieux, parce que lorsqu'il y a vraiment des créatures merveilleuses, ce sont bien les abeilles. En faire des tueuses, eh bien, c'était plutôt malvenu. Et du coup, Irwin Allen, le réalisateur, a été, je dirais, bien mal inspiré. Par contre, et les aficionados de 24 notes secondes le savent, la musique était signée du grand Jerry Goldsmith, mon chouchou. Toujours un petit silence après Jerry Goldsmith. Et il s'est déchaîné pour le coup. Plus le film était mauvais, plus la musique de Jerry était bonne. Et vous allez pouvoir en juger l'inévitable catastrophe, mais dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Géry, je t'adore. Générique.